Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Alors, la radio dispose d'un webchat, donc utilisez votre navigateur libre préféré et rendez-vous sur le site de la radio. Vous cliquez sur chat et vous rejoignez le salon consacré à l'émission, donc libre à vous. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'Association nationale de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Houchet, le délégué général de l'April. Donc le site web de l'association, c'est april.org et vous retrouvez d'ores et déjà une page consacrée à l'émission du jour avec un certain nombre de références et la page sera mise à jour après l'émission si nous citons de nouvelles références évidemment. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors nous allons passer maintenant au programme de l'émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par un échange avec Xavier Bern, journaliste pour Next Impact, qui traite donc site qui traite d'informatique, mais aussi de l'actualité politique et juridique liée à l'informatique. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur les entreprises du logiciel libre. Et en fin d'émission, nous aurons la chronique de Vincent Calame, qui est en train de s'installer en studio. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Alors tout de suite, place au premier sujet. Donc c'est initialement Xavier Bern devait faire une chronique en direct, mais il a eu un contretemps. Donc nous allons diffuser la première chronique de Xavier, qui était consacrée il y a quelques semaines à Parcoursup. Et vous retrouverez juste après, évidemment, sur le site, vous trouvez déjà les références liées à Parcoursup et avec ce que va nous expliquer Xavier. Donc on se retrouve d'ici une douzaine de minutes après la chronique de Xavier Bern. Et Xavier souhaite nous parler de Parcoursup. Alors Parcoursup, c'est une application web destinée à recueillir et à gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants de l'enseignement supérieur public français, mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation en 2018 dans le cadre de la loi d'orientation et réussite des étudiants. Donc elle remplace l'ancien système d'admission post-bac, APB, qui avait été vivement critiqué en 2017. Je précise que cette source, c'est Wikipédia, pour faire le lien avec l'émission d'après, le sujet d'après. Donc Xavier, tu vas nous parler notamment d'un jugement récent concernant Parcoursup. Donc Xavier, on t'écoute.
Absolument, effectivement, le 4 février dernier, en fait, le tribunal administratif de Guadeloupe a ordonné à l'Université des Antilles de communiquer à l'UNEF, donc le syndicat étudiant, son algorithme local de sélection des étudiants. Alors algorithme, en fait, c'est quand même un bien grand mot parce qu'en réalité, les universités ne recourent à des tableurs Excel, en fait, qui leur permettent tout simplement d'opérer un pré-classement des candidats, notamment par exemple à partir de leurs notes, avant que se tienne un jury où là seront sélectionnés les candidats. Retenus ensuite pour des formations de type licence, BTS, etc. Donc sur le fondement de la fameuse loi CADA, dont on a déjà parlé donc, dans cette émission relative à l'accès aux documents administratifs, l'UNEF avait demandé l'année dernière à plusieurs dizaines d'universités de rendre publics leurs algorithmes locaux afin tout simplement que les candidats sachent sur quels critères leur dossier allait être examiné.
Alors, pourquoi ce jugement est important ?
Alors, il s'agit d'un jugement qui est hautement symbolique parce que c'est le premier qui a été rendu sur ce sujet. Et surtout, le tribunal va à rebours de la position du ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi des universités. En fait, le juge, dans le détail, a retenu que la divulgation de cet algorithme local ne portait pas atteinte au ce qu'on appelle le secret des délibérations du jury, une notion qui, en fait, avait été introduite l'année dernière par le gouvernement, sans que celui-ci, d'ailleurs, n'avoue réellement pourquoi est-ce qu'il avait voulu introduire cette notion lors des débats sur le projet de loi Parcoursup. Le juge a donc ordonné donc, la communication des procédés algorithmiques utilisés par l'Université des Antilles ainsi que les codes sources afférents sous un mois avec astreinte. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'aussi le tribunal a clairement suivi l'analyse du défenseur des droits qui, au mois de janvier, avait estimé que se plier à cet effort de transparence en fait, n'obligeait pas les universités à dévoiler le contenu de l'appréciation portée sur chaque candidature, mais en fait uniquement des critères pris en compte dans l'appréciation en fait, des candidatures.
Oui, alors, quand tu précises que c'est important parce que ça va à l'encontre de la position du gouvernement, mais aussi de la CADA, de la Commission d'accès aux documents administratifs, qui avait pris position pour dire qu'il y avait une non-communicabilité, si je me souviens bien, justement parce que ça pouvait apporter des éléments d'identification, en tout cas d'explication sur des décisions particulières, individuelles, alors qu'en fait, la publication qui a été demandée, c'est vraiment les règles générales, ce qu'on appelle un peu les algorithmes, hein. qui sont quelque part une suite finie d'opérations qui permettent d'arriver à une décision ou à mettre en place une procédure. Et donc, ce jugement est important parce qu'il va donc à l'encontre de ce qu'affirmait le gouvernement, la CADA. Et tout à l'heure, tu parlais donc d'un amendement en 2018, si je me souviens bien, et je crois que c'est bien indiqué dans un de tes articles, le gouvernement avait bien dit que ça ne remettrait pas en cause justement l'accès à ces documents administratifs, à ces algorithmes locaux, et pourtant, de facto, la réalité est contraire. Et donc c'est pour ça que ce jugement est très important. Et pourtant, il semblait que le gouvernement avait promis la transparence sur Parcoursup, justement pour mettre un terme aux critiques qui avaient concerné admission post-bac.
Effectivement, sur ce dossier, on peut vraiment parler d'un bal des faux culs. J'ai exhumé quelques citations intéressantes lors de la préparation de cette émission. Donc l'année dernière, devant le Sénat, lors de l'examen du projet de loi sur Parcoursup, Frédéric Vidal, donc la ministre de l'Enseignement supérieur, avait par exemple assuré que les codes sources de tous les algorithmes de Parcoursup seraient rendus publics. Promesse à nouveau formulée quelques semaines plus tard, en avril 2018, Public Sénat, pardon, je cite, la totalité des algorithmes seront publiés. Même Mounir Majoubi, son collègue secrétaire d'État chargé du numérique, s'y était engagé cette fois dans les colonnes de l'étudiant, où est-ce qu'elle disait, je cite, le code source de l'algorithme national de Parcoursup sera rendu public, l'algorithme d'affectation utilisé par chacun des établissements le sera également. Donc voilà, on voit clairement aujourd'hui que c'est pas le cas, vu que les algorithmes d'affectation utilisés par chacun d'établissements n'a pas été rendu public. En revanche, il faut quand même souligner que le code source de la plateforme nationale de Parcoursup a lui été rendu public, mais donc pas les fameux algorithmes locaux, et c'est un petit peu le problème, parce qu'en fait, selon de nombreux observateurs, il s'agit en fait du cœur de la machine Parcoursup, là où se joue en grande partie la sélection des étudiants.
Oui, parce qu'il faut expliquer que l'accès au code source ne suffit pas, parce que le code source peut être accompagné de documents externes, de documentation externe ou de procédures externes, et c'est un peu ce qu'on parle avec ces algorithmes. Et puis il y a la partie nationale, et puis il y a la partie évidemment locale, donc les algorithmes locaux. Par rapport à ce jugement, alors c'est un jugement en première instance, est-ce que ça signifie que désormais toutes les universités vont devoir divulguer leurs algorithmes locaux ?
Non, effectivement, parce que déjà, il faut savoir qu'il y a certaines universités qui ont recours à ces outils d'aide à la décision.
Ces fameux tableurs.
Il y en a environ une université sur quatre qui a eu recours. Et surtout, comme tu l'as déjà dit, il me semble, l'Université des Antilles veut se pourvoir en cassation.
Non, je ne l'avais pas dit, mais...
Il me semblait. Donc, autant dire que les universités, les étudiants et le gouvernement vont scruter cette décision du Conseil d'État avec la plus grande attention. Et la bataille s'annonce vraiment rude, parce qu'il y a des positions très fermes de la part du ministère, mais aussi de la technicité en fait, de cette matière. Les textes sur lesquels cette bataille est lancée sont très peu intelligibles. Et j'ai l'impression qu'il y a une confusion de certains acteurs, justement, entre ce que tu disais, algorithme, code source. Et il y a aussi une nouvelle notion qui a été introduite par la loi numérique de 2016, c'est sur les principales règles de fonctionnement en fait, des algorithmes, et qui ressemble un peu plus à une sorte de notice, de mode d'emploi de fonctionnement des algorithmes utilisés par les administrations.
Tu veux dire qu'au-delà du code source de la plateforme, il y a les algorithmes locaux, et ensuite il y a des documents qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement de l'algorithme, c'est ça ? En fait, il y a trois types de documents quelque part.
Exactement, c'est tout à fait ça. Depuis la loi numérique de 2016, alors c'est une mesure qui est entrée en vigueur en septembre 2017, mais toutes les administrations, donc ça ne concerne pas uniquement Parcoursup, même si c'est là que c'est intéressant, parce qu'ironie de l'histoire, ces dispositions avaient été taillées pour APB, le prédécesseur de Parcoursup. Et donc, toutes les administrations, à partir du moment où il y a une décision individuelle qui est prise à l'égard d'un citoyen, elles doivent être capables d'expliquer comment elles en sont arrivées à ce résultat. Alors en décrivant par exemple quelles données ont été traitées, quelles opérations ont été effectuées par le traitement.
D'accord. Est-ce que ces réticences sont surprenantes ? Alors je parle par rapport aux deux types d'acteurs, on va dire les universités et le gouvernement. Est-ce que c'est vraiment si surprenant que ça ? Je vais prendre un exemple par rapport au gouvernement, était bien placé pour le savoir. La première version du code source réclamé, donc je crois que c'était APB ou Parcoursup, mais tu me corrigeras, avait été envoyée en format papier. Donc c'était quand même montré une certaine... C'était APB ?
Oui, c'était sur APB, c'était l'association Droit des lycéens qui avait à l'époque suivi le...
Donc ça montre quand même pas forcément une volonté de contribuer, parce qu'envoyer un code source par papier, c'est quand même un peu absurde. Ou en tout cas, c'est une volonté de ne pas vraiment contribuer. Donc est-ce que vraiment ces réticences sont les mêmes côté gouvernement et côté université, d'après toi ?
Oui, j'ai quand même l'impression qu'en fait, le ministère de l'Enseignement supérieur... faire remonter d'une certaine manière les craintes des universités. Pour moi, je vois ça un peu ça comme une caisse de résonance.
D'accord. Donc c'est un relais du gouvernement qui finalement contraint les universités. Et on peut peut-être supposer que le fait que l'université des Antilles aille devant le Conseil d'État a été fortement encouragé par le ministère. On peut le supposer.
Oui, en tout cas, c'est ce que m'ont indiqué certaines sources. Et d'ailleurs, j'ai été très surpris parce que quand j'ai contacté l'université le lendemain du jugement, ils avaient déjà un communiqué de presse prêt, qui était vraiment bien taillé en expliquant qu'ils allaient former leur pourvoi en cassation. Donc je pense qu'il y avait pas mal de préparation derrière tout ça.
Alors, de ton point de vue, si on a bien compris, on va rappeler peut-être qu'en 2016, donc il y a la fameuse loi pour une république numérique qui avait fait un certain nombre d'avancées. Donc l'an dernier, en 2018, il y a un amendement dont tu as parlé au départ qui finalement vise à vider d'une partie de sa substance la loi Lemaire, en tout cas en ce qui concerne Parcoursup. Bon, on va attendre évidemment ce que va dire le Conseil d'État, parce que je suppose que l'UNEF va poursuivre devant le Conseil d'État et va défendre cette position. Mais est-ce que toi, tu attends quoi ? Des clarifications, par exemple, législatives dans le cadre d'un nouveau projet de loi que pourrait porter le ministre Mounir Majoubi ? Est-ce que tu crois que c'est la CADA, par exemple, qui, on a déjà parlé lors de notre émission justement avec le président de la CADA, Marc Dandelot, de certains reculs quand même de la CADA récemment, parce que visiblement la CADA soutient la position du gouvernement et des universités. Donc, d'après toi, quoi, la solution, c'est plutôt législative, elle est plutôt autour de la CADA, ou finalement c'est le Conseil d'État qui va trancher ?
Ça dépend si on veut avancer à droit constant ou pas. Le législateur s'est prononcé, il y a eu le vote de certaines dispositions. D'ailleurs, les sénateurs qui ont... Enfin, il faut aussi rappeler que cet amendement a été voté dans un contexte un petit peu particulier. Le gouvernement a attendu en fait la dernière ligne droite des débats, c'est-à-dire l'examen en séance publique au Sénat, juste avant ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, donc en fait un moment où est-ce que une fois que ça a été voté, après derrière on pouvait plus changer grand chose en fait.
Oui, donc c'était bien volontaire du gouvernement, une pratique habituelle on va dire.
Voilà, on va dire que c'était pas la première fois, et je pense que les sénateurs qui n'étaient pas forcément très avertis, très alertes sur ce sujet, se sont fait enfumer et derrière ils ont essayé de reprendre la main sur ce sujet, mais ils n'ont jamais réussi. Les députés ont toujours soutenu le gouvernement dans cette entreprise. Les sénateurs avaient essayé de revenir en fait sur cet amendement lors du projet de loi sur le RGPD dans les mois qui ont suivi. Et les députés ont toujours suivi l'initiative du gouvernement, donc ça n'a pas été modifié.
D'accord.
Je pense que le Conseil d'État, bon, pour répondre à ta question, pardon, je vois que le temps passe, le Conseil d'État pourrait faire une précision, peut-être clarifier un petit peu les choses. Voilà, c'est ce qu'on peut attendre en tout cas dans l'immédiat, et sinon, effectivement, il faudra plutôt, à mon avis, repasser par la case Parlement.
Alors d'accord, juste avant de terminer, on a une petite question sur le salon, donc je vais sur le salon web, hein, dont j'ai donné les références tout à l'heure, donc vous allez sur causecommune.fm, vous cliquez sur chat. Donc la question, y a-t-il aussi des acteurs privés qui contribuent à créer les algorithmes de Parcoursup ? Est-ce que tu as la connaissance, il y en a ?
À ma connaissance, non, mais j'avoue que je ne suis pas forcément bien au fait de ce point de détail-là.
Ok, bah, de toute façon, on vérifiera. Moi non plus, ça me paraît pas. Enfin, ça me paraît non, mais on vérifiera. En tout cas, voilà, il y avait cette question-là. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose en conclusion ?
Non, je pense qu'on a bien, on a à peu près fait le tour du sujet sur les principaux éléments. Merci.
Alors en tout cas, je renvoie donc les personnes qui nous écoutent aux deux articles qu'a publié Xavier Bern sur nextimpact.com récemment. Donc les titres, c'est « Transparence de Parcoursup, un an de mensonges », notamment du gouvernement. Et le deuxième article, c'est « Retour sur le jugement imposant à une université de divulguer son algorithme local Parcoursup ». Donc ces deux références sont sur le site de l'April, et sinon vous allez sur nextimpact.com et vous les trouverez. Xavier Bern, bah écoute, je te remercie pour cette première chronique et je te souhaite de passer une belle fin de journée.
C'est moi, merci carrément. Au revoir.
Au revoir. Alors donc, c'était la chronique de Xavier Bern consacrée à Parcoursup. Je précise que les articles dont il est question dans l'article sont maintenant disponibles en libre accès, car le modèle économique de Next Impact, c'est abonnement avec articles réservés aux personnes abonnées au bout d'un certain temps. Les articles sont libérés, délivrés, comme ils disent. Deuxième précision, dans la chronique, il est question d'un ministre en charge du numérique, Mounir Majoubi. Bah, aujourd'hui, ce n'est plus lui, hein, c'est Cédric O, vu que Mounir Majoubi est parti à la conquête de Paris comme tant d'autres. Donc nous allons faire une pause musicale avant d'aborder le sujet principal. Nous allons écouter Women Thoughts par Cyber SDF.
Cause commune.
D'écouter Women Thoughts par Cyber SDF, donc c'est en licence Creative Commons partage à l'identique et les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Alors nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter donc sur les entreprises du logiciel libre. Alors je précise tout de suite que c'est une première émission d'introduction, nous aurons l'occasion évidemment d'en refaire plein d'autres. Alors nos invités de Véronique Torner, donc d'Alterway, administratrice du Syntec Numérique, président de l'Open CEO Summit, nous aurons le temps d'expliquer tout ça. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Alors Stéphane Fermigier, président et fondateur d'Abilion.
Abilion.
Et co-président donc, du CNLL, donc, l'Union des entreprises du logiciel libre et du numérique, et également président du groupe thématique logiciel libre du pôle systématique. Ça fait beaucoup de titres, mais c'est des personnes actives qui veulent ça. Et Laurent Vargon, bonjour Laurent, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Et Laurent Vargon, donc, de la société Easter Eggs et du réseau Libre Entreprise. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors, le but de cette première émission sur les entreprises du logiciel libre, et je vais évidemment faire un tour de table de présentation de ces trois personnes, c'est un peu d'expliquer tout simplement que dans logiciel libre, il n'y a pas forcément la gratuité, loin de là, ça ne fait même pas partie de la définition du logiciel libre, et qu'il y a des acteurs économiques qui ont un rôle à jouer. Alors, on va faire un focus sur deux types d'acteurs aujourd'hui, même s'il y en a beaucoup d'autres. D'abord, un premier tour de table de présentation, on va commencer par Laurent Vargon, d'Easter Eggs et de Libre Entreprise.
Oui, bonjour. Alors moi j'ai été client puisque j'ai été responsable informatique dans une institution de 400 personnes et donc j'ai été client de sociétés éditrices de logiciels et de prestataires de services libres et non libres. Ensuite j'ai rejoint Easter Eggs, donc ça fait 2 ans maintenant, donc je remercie aussi de la confiance qui m'a été donnée de venir à la radio aujourd'hui. Et Easter Eggs c'est une société de 16 personnes qui a la particularité d'avoir un fonctionnement démocratique. Donc chaque individu dans l'entreprise va participer aux décisions de l'entreprise et va aussi avoir un salaire égal.
Merci Laurent. Véronique Torner.
Oui, alors pour me présenter, moi j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai été développeuse au début de ma carrière. Et puis en 2006, avec mon associé qui est Philippe Montargès, qui est également très engagé dans le secteur du logiciel libre, nous avons décidé de créer Alterway. Alors le nom est signifiant. Alterway, c'était l'autre voie par rapport à un marché qui était fortement dominé par le logiciel propriétaire. Et avec Philippe, ça faisait plusieurs années qu'on s'interrogeait sur ce modèle économique autour du logiciel libre. Et c'est un modèle qui nous a séduit pour pas mal de raisons. Et du coup, on a décidé de fonder Alterway, qui est aujourd'hui une entreprise de services numériques. On est 200 personnes, un peu moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on est spécialisé autour des plateformes web et donc sur les technologies open source. Et sur ces plateformes web, nous avons cinq approches. Une approche qui va plutôt sur le métier du développement. Donc là, on fait du design. Ça va même jusqu'à une activité de studio, donc du développement. Et puis, une activité dans le monde de l'infra, du cloud jusqu'à la tierce maintenance applicative et l'infogérance et l'hébergement de plateformes. Voilà.
Merci Véronique. Stéphane ?
Alors moi, j'ai découvert le logiciel libre il y a plus de 30 ans. C'était en 1988, comme utilisateur d'abord. Et puis, à force d'aller regarder le code source des logiciels que j'utilisais, je me suis vraiment pris d'intérêt et en même temps de l'envie de faire connaître, de faire comprendre, de faire utiliser ces logiciels libres et également d'en produire, puisque j'aimais bien aussi programmer. Et donc, alors en 98, avec d'autres personnes, on a fondé une association, l'AFUL, qui était complémentaire, on va dire, de l'April. Et puis, deux, trois ans plus tard, j'ai fondé une société avec l'idée que pour arriver à ce que le logiciel libre ait un impact, il fallait des entreprises. À l'époque, il y en avait peut-être une dizaine, une vingtaine en France. Et on sentait que le marché était en train de s'éveiller, bon, tout doucement au début, et puis ça s'est accéléré au cours des années 2000-2010. Et là, depuis quelques années, j'ai une nouvelle société qui s'appelle Abilian. On est éditeur de logiciels logiciel libres, hein, forcément, sinon on ne serait pas là. On est aussi intégrateur, on fait du logiciel à façon, autour du langage Python, le langage qui est devenu l'un des plus populaires, qui est utilisé aussi bien dans l'enseignement, le web et les choses les plus avancées, les plus un peu mathématiques, puisque j'ai une formation au départ de mathématicien, donc pour faire ce qu'on appelle du machine learning ou en français de l'apprentissage automatique. Donc c'est les technologies qui sont comment dire le moteur de ce qu'on appelle plus communément l'intelligence artificielle. En parallèle de cette activité, je dirais professionnelle, j'ai aussi créé un certain nombre de structures. La FUL, j'en ai parlé. Et puis, on a créé le CNLL, le Conseil National du Logiciel Libre, qui est devenu depuis l'Union des Entreprises du Logiciel Libre et du Numérique Ouvert, avec Philippe Montargès, enfin, et avec d'autres personnes, et dont je suis le président depuis quelques années. L'idée, c'est d'avoir une structure qui fédère l'ensemble des structures régionales qui représentent les entreprises du logiciel libre en France et qui défendent l'intérêt et qui font la promotion de cette filière aussi bien en France qu'au niveau européen.
D'accord. Bah, écoutez, c'est une belle introduction. Je pense que les personnes qui nous écoutent peuvent comprendre maintenant qui parle. Alors, premier tour de table, et ça va être plutôt un survol. Donc, comme je le disais en introduction, pour la plupart des gens, le logiciel libre est de facto gratuit, hein, par téléchargement sur Internet. Et la plupart connaissent surtout, alors par rapport aux outils qui ont été cités, connaissent surtout Firefox, LibreOffice, VLC. Ça me fait penser d'ailleurs qu'on fera une émission dédiée justement au financement de ce type de logiciel grand public, parce que c'est assez particulier. Mais en tout cas, dans la définition du logiciel libre, dont on va rappeler hein, les quatre points, c'est la liberté d'utilisation, la liberté d'étudier le fonctionnement, la liberté de modifier, et la liberté de redistribuer soit la version originale, soit la version modifiée. Il n'y a aucune restriction d'un point de vue gratuité. Par rapport à d'autres licences que les gens connaissent, par exemple les licences Creative Commons, il peut y avoir des licences qui interdisent la redistribution commerciale, dans le logiciel libre, ça ne fait pas partie de la définition. Et donc évidemment, comme l'a dit Stéphane, depuis on va dire effectivement d'une vingtaine d'années, hein, avec 98 qui est une année marqueur un petit peu de ce point de vue-là, il y a un développement d'entreprises autour du logiciel libre. Donc déjà, première question, quels sont les grands thèmes, enfin, quels sont les grands principes ou les grands types de financement de logiciels libres ? Sachant qu'après, on va faire un focus évidemment sur vos deux métiers particuliers qui sont l'édition de logiciels libres avec Stéphane et le côté plus intégrateur avec Véronique et Laurent. Donc peut-être que Stéphane veut peut-être commencer là-dessus ?
Oui, je peux donner une introduction générale très rapide. On a sorti il y a quelques années un livret bleu. Peut-être qu'il y a le lien d'ailleurs sur le site ou que tu le.
Alors les livrets bleus du groupe thématique sont le lien est sur le site de l'April. Oui.
Tout à fait. Donc qui présente, mais de manière très pédagogique et comment dire. C'est un survol, ce n'est pas une étude approfondie, les principaux modèles économiques, et on en distingue principalement deux pour ce qui concerne les entreprises traditionnelles, les entreprises qui cherchent à réaliser du profit. On a ce qu'on appelle les intégrateurs, donc c'est aussi ce qu'on appelle les sociétés de services, les sociétés qui vont prendre des logiciels libres qui existent dans la nature, on va dire. Alors après, on verra comment ces logiciels ont été produits à l'origine et qui vont les adapter et réaliser des projets informatiques pour des clients. Alors là, on parle de clients professionnels ou de clients qui sont des entreprises ou des administrations. On ne parle pas, pour la plupart de ces entreprises, de clients qui sont des particuliers. Et puis la deuxième catégorie, qui est peut-être minoritaire en nombre, mais qui est aussi très importante, puisque c'est elle qui produit une partie de tous les logiciels libres qui sont disponibles, c'est ce qu'on appelle les éditeurs. L'éditeur, c'est une société qui emploie des développeurs qui vont développer un ou plusieurs logiciels libres et qui va aussi employer des gens qui vont faire un peu de service autour, mais en général en partenariat avec des intégrateurs et qui va... Alors avec des modèles qui peuvent être différents d'un éditeur à l'autre, tirer des revenus de ces logiciels. Et ces revenus, le fondement même, le fondement du fait d'arriver à ce qu'on... Bon, c'est un mot un peu moche, mais on va dire monétiser, c'est-à-dire d'arriver à tirer des revenus de quelque chose qu'on a réalisé, c'est le fait simplement d'avoir la connaissance, la matière grise, les gens qui ont créé le logiciel et qui sont a priori les plus à même de résoudre les problèmes des clients ou de faire évoluer le logiciel ou de corriger les anomalies et donc d'assurer une sorte de garantie sur le long terme qu'un logiciel va vivre sa vie, va continuer à évoluer, va s'adapter aux changements nécessaires, va être corrigé quand il y a besoin.
Véronique, sur cette introduction sur les acteurs économiques.
Du coup, nous, on est une société qui est dans la case intégrateur de ce que vient de dire Stéphane. Hein, on est une entreprise de service. Alors, qu'est-ce qui nous caractérise finalement d'une autre entreprise de service ou un intégrateur, puisque finalement, on délivre finalement le même métier, hein, de la prestation intellectuelle. Et bien, c'est le fait que nous utilisons exclusivement des briques de logiciels libres. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que nos équipes sont formées au modèle économique qui est sous-jacent au logiciel libre. Donc ça, c'est un point important sur, par exemple, notamment l'usage des licences, qui est un point important, et notamment pour des grandes entreprises, l'aspect juridique va être un sujet sensible et critique. On a dans nos équipes des gens qui sont passionnés et donc qui sont également des contributeurs aux solutions libres que nous utilisons. Donc, soit nous avons une contribution qui est individuelle, portée par nos salariés, soit c'est l'entreprise qui est elle-même contributrice. Donc voilà, c'est ça qui va nous caractériser comme étant une entreprise de services numériques avec l'ADN libre.
Laurent Aragon ?
Oui. Alors, donc, on a vu l'éditeur, on a vu l'intégrateur. Et il y a encore une petite partie qui est le développement spécifique. Nous, on va utiliser des outils de développement rapide qui vont nous permettre de rendre service à un client et un seul. Donc, ce n'est pas le rôle de l'éditeur où il va avoir plusieurs clients pour un même produit, mais là, on va avoir juste un produit et un développement spécifique pour ce client-là. Et en général, c'est assez satisfaisant parce qu'on arrive très, très vite à un résultat qui est l'exact besoin du client.
D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment un peu de la partie éditeur et intégrateur. À part Abilion, est-ce qu'il y a des noms d'éditeurs connus qui pourraient parler aux gens ? Je sais la question comme ça, qu'on peut ranger dans la catégorie éditeur.
Comme je le disais il y a quelques instants, les éditeurs, les sociétés dont on parle sont principalement des sociétés, ce qu'on appelle B2B, c'est-à-dire qui s'adressent à d'autres entreprises.
Business to business.
Business to business. Donc c'est vrai qu'au niveau du grand public, il n'y a à peu près aucune chance que les noms des entreprises du logiciel libre, alors peut-être que les gens ont déjà entendu parler d'IBM, d'Oracle ou de SAP, et encore, je ne suis même pas sûr que...
Est-ce que Red Hat se range dans cette catégorie ?
Alors Red Hat, complètement, oui. Est dans cette catégorie d'éditeurs open source, c'est peut-être l'un même des cas les plus extrêmes, les plus purs d'éditeurs open source, mais je ne suis pas sûr que Red Hat soit un nom qui soit connu du grand public. C'est une question qu'il faudrait nous poser à nos auditeurs.
Alors, je pose la question aux personnes qui nous écoutent en direct. Et je vous rappelle qu'il y a un salon web, effectivement, si vous avez le nom d'éditeur de logiciel libre connu. Mais on fera de toute façon une émission dédiée aussi à cet aspect logiciel grand public, parce que quelque part, il y a des fondations, on ne parle pas aujourd'hui, mais des fondations à but non lucratif qui financent un certain nombre de développements logiciels. Mais aujourd'hui, on va parler, bon, éditeur, intégrateur. Alors toi, Stéphane, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait de mémoire 21 ans, Nuxeo, c'est quoi, c'était 98
2000.
Donc, bon, ça fait presque 20 ans que tu fais ça. Pourquoi avoir choisi, à part évidemment ton historique intéressé par le logiciel libre mathématicien, pourquoi tu as choisi ce modèle d'éditeur de logiciel libre par rapport à d'autres modèles d'éditeurs? Et en plus, toi, tu l'as choisi à un moment où c'était quand même pas le truc le plus connu, on va dire. Qu'est-ce qui t'a motivé ?
Effectivement, il y avait l'idée de saisir, on va dire, une opportunité, de sentir que quelque chose était en train de se passer, qu'il y avait vraiment un intérêt naissant, mais pas encore suffisamment répandu pour que les gros acteurs se soient, entre guillemets, partagé le gâteau. Et en même temps, il y avait, ça coïncidait aussi avec un intérêt personnel, peut-être une certaine forme d'expertise, ou en tout cas de connaissance approfondie du domaine, et également un intérêt, je dirais, philosophique, éthique, autour de ces questions. Et en même temps, tout ça était en phase avec peut-être une mutation du marché, le fait d'aller de systèmes très fermés et verrouillés par des grands éditeurs américains à une volonté de certains acteurs, et notamment l'administration française au tournant des années 2000, de favoriser des solutions ouvertes, interopérables, c'est-à-dire avec des systèmes qui peuvent se parler entre eux, qui ne sont pas bloqués, comme on pouvait l'avoir avec Microsoft à l'époque, hein, qui était vraiment le chantre de l'écosystème fermé, c'est-à-dire les logiciels Microsoft qui marchaient très très bien avec les autres Microsoft, les logiciels Microsoft, mais qui ne marchaient pas du tout bien avec les logiciels des concurrents, et souvent avec une vraie volonté de nuire d'empêcher les concurrents de se développer grâce à des bidouilles techniques qui ont été révélées au cours de différents procès dans les années 2000. Alors donc cet intérêt personnel a coïncidé aussi avec une volonté d'entreprendre, donc il y avait une conjonction, comme pour pas mal de chefs d'entreprise, hein, ou de créateurs d'entreprise, c'est... On pense avoir les compétences, on a un intérêt et on pense qu'il y a un marché. C'est un peu le triptyque. Et bon, il s'est trouvé que ça s'est plutôt bien passé pour moi à l'époque.
Alors, on reviendra après sur l'avantage aussi, ou en tout cas que tu as vu à choisir un modèle d'édition logiciel libre par rapport à un modèle d'édition privatrice, classique. Alors, j'ai un peu la même question. Alors déjà, pour Véronique, Laurent sera un petit peu différent parce qu'avec ton parcours, toi, tu viens du côté client et ensuite, tu as évolué côté intégrateur. Quand en 2008, Alter Way
2006.
Je suis très mauvais sur les dates aujourd'hui.
C'est pas grave, deux ans, ça va.
Deux ans. Donc 2006, Alter Way. Donc pourquoi ? Même question en fait. Pourquoi avoir choisi ce modèle d'intégrateur basé sur des solutions libres, donc avec Philippe Montargès qu'on salue ? Pourquoi ce choix-là ?
Alors, je pense qu'il y a un constat qui est partagé avec Stéphane. Hein. Je crois que nous, on s'est intéressé à ce secteur du logiciel libre quelques années avant la création d'Alter Way. Il nous a fallu un petit peu maturer notre projet avant de se lancer, quelques années avant. Et c'est vrai que le constat de la nécessité d'arriver à la fin d'un modèle de monopole, très frustrant parce que c'était l'effet boîte noire, avec l'émergence d'un mouvement qui était plus libertaire, hein, dans le sens de faire de l'intelligence collective, du partage, une dimension assez éthique aussi sur la partie le domaine transparence. Et du coup, c'est ça qui nous a poussé et motivé à entreprendre dans ce secteur-là. Alors, c'est vrai que c'était pas très évident à l'époque. Hein. En 2006, et c'est encore quelques années après vraiment, je dirais, le démarrage des premières sociétés. Mais quand on a créé Alter Way, on devait être, je ne sais pas, il devait y avoir une cinquantaine d'entreprises en France sur ce secteur-là. Et c'était des entreprises qui ne dépassaient pas, je pense, les 10 millions d'euros. Il n'y avait pas un acteur qui faisait plus de 10 millions d'euros français, hein, je parle.
Et en termes de personnel, c'était autour d'une dizaine de personnes, on va dire.
Et voilà, je pense que la moyenne, en fait, c'était des entreprises d'à peu près une dizaine de collaborateurs. Donc, c'était quand même un marché qui était naissant. Et donc, c'est ça qui nous a motivés, c'était de se lancer dans cette aventure, d'essayer de créer un acteur qui deviendrait un acteur référent en Europe sur ces technologies. Et donc, le démarrage pour nous, ça a été plutôt de s'engager à dire, on va essayer de rapprocher différents acteurs qui étaient des spécialistes pour essayer de constituer un intégrateur d'une certaine taille et adresser, essayer d'adresser les grands comptes qui étaient quand même basés sur des triptyques. Hein. C'était SAP, Oracle, Microsoft, ils ne connaissaient que ça. Et c'est amusant, en fait, la petite anecdote, c'est, je ne vais pas les citer là, mais
tu peux nous en direct,
un certain nombre, parce que j'avais eu avant une autre vie et que j'avais travaillé sur des solutions Microsoft, eh bien, me disait, bah, Véronique, ça ne sera pas possible, ça ne marchera jamais. Et aujourd'hui, ce sont les premiers, en fait, à utiliser des solutions open source. Ils en sont très contents. Et je dirais même qu'aujourd'hui, ils essaient même de sortir certains des acteurs que j'ai cités il y a quelques secondes.
Alors, ça me fait penser aux mêmes personnes qui disaient en 2001, à la naissance de Wikipédia, que jamais ça marcherait et qu'on ne pouvait pas avoir une encyclopédie libre faite uniquement par des gens sur Internet. Alors, on reviendra tout à l'heure justement sur un point intéressant, parce que sur les grands comptes, donc soit grandes entreprises, soit grandes collectivités, j'aurais une question sur pourquoi finalement ces structures s'adresseraient à Alterway ou des structures spécialisées plutôt qu'à des intégrateurs généralistes comme Capgemini, Altran et compagnie. Parce que il y a sans doute une raison pour laquelle, mais on y reviendra tout à l'heure. Laurent, ton point de vue là-dessus, toi, je demande, t'as un double profil client initialement, donc dans une structure que tu peux citer d'ailleurs, la structure, je ne sais pas si tu...
Oui, je peux, tout à fait, c'est le musée des arts décoratifs.
Voilà, donc tu es DSI au musée des arts décoratifs, maintenant tu es chez Easter Eggs, donc c'est quoi cette évolution et en tant que client, évidemment, quel avantage tu avais toi à faire appel à des prestataires en logiciel libre?
Alors effectivement, le musée des arts décoratifs était client de Easter Eggs, il est d'ailleurs toujours client d'Easter Eggs, on continue à travailler pour le musée. Alors, c'est assez différent. On a un contact qui est, je pense, plus authentique. On a affaire à des commerciaux qui ne promettent que ce qu'ils connaissent. Je peux le dire maintenant depuis l'intérieur, les devis sont faits par ceux qui vont réaliser les travaux et pas par le commercial. Et puis, on a une transparence assez importante sur le déroulement des projets. On a une documentation qui va être partagée, qui est rédigée soit par Easter Eggs, soit amendée par le client. Mais on a cette transparence de la documentation. Et on a une facilité d'échange qu'on n'a pas, enfin, ou pas toujours, ou en tout cas, c'est plus simple avec un fournisseur de proximité.
Vas-y, Véronique.
Ouais, je trouve que ce qui est intéressant en fait, dans le rapport avec nos clients, c'est que je pense qu'il y a plus naturellement, et je ne dis pas que c'est exclusivement lié à ces entreprises-là, hein, mais plus naturellement, il y a une relation de partenaire. Parce qu'on peut ensemble contribuer aux solutions, avoir une démarche partenariale. Ce qui est moins vrai quand on est uniquement consommateur. Évidemment, il y a une relation plus de fournisseur, prestataire qui s'installe avec le client. Alors que lorsqu'on est sur, je dirais, un domaine qui touche au logiciel libre, le client comprend qu'il peut à un moment donné contribuer. Et ça crée une relation différente, en fait. Un rapport de force qui est totalement différent.
Alors, je vais compléter après la question sur justement l'intérêt pour les entreprises et collectivités d'aller d'avoir un prestataire logiciel libre et d'aller sur des briques logiciels libres. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, en termes d'éditeur logiciel libre, je suppose donc qu'il y a un partage de la R&D quelque part avec les clients, contrairement à la modèle traditionnel où la R&D est faite uniquement par la structure éditrice. Là, il doit y avoir sans doute un échange.
Alors, le fondement de l'édition logicielle, c'est effectivement qu'on a un investissement au départ. Le fait de produire le logiciel, de produire la version 1.0, la première version qui marche d'un logiciel, ça demande un effort parfois important, ça peut demander plusieurs années de travail, même parfois des dizaines ou encore plus. Et donc cet investissement, il faut d'une certaine façon qu'il rapporte à un moment donné. Et donc les sociétés du logiciel libre sont obligées d'essayer d'imaginer d'une façon différente du modèle capitaliste traditionnel, c'est-à-dire où quelqu'un, ou un investisseur, va mettre une certaine somme d'argent pour créer la première version, et puis ensuite on va essayer de la vendre, on va voir si l'argent rentre ou pas, en tout cas si les clients viennent utiliser le logiciel. Si l'argent rentre pas, bah tant pis, l'investisseur a perdu son argent. Pour lui, c'est pas forcément catastrophique parce qu'il espère toujours sur 10, 20 investissements, il espère qu'il y en aura un ou deux qui vont marcher du feu de Dieu, 4 ou 5 qui vont marcher moyen, et puis s'il y en a 3 ou 4 qui n'aboutissent à rien, bah, c'est pas trop un problème pour lui. Par contre, c'est forcément un problème pour le chef d'entreprise, pour les développeurs, pour les gens qui ont vraiment travaillé pendant des mois, parfois des années, pour essayer de sortir ce logiciel. Donc là, avec le logiciel libre, on est plus dans une démarche de co-construction. On va souvent, pas toujours, mais souvent sortir des premières versions dites instables, donc dites un peu expérimentales, qui n'adressent pas encore forcément tous les besoins du marché, mais de façon à avoir un retour des utilisateurs potentiels qui souvent dans ce cas là sont aussi des experts potentiels, des gens qui vont pas être juste des utilisateurs passifs, mais au contraire qui vont être capables d'apporter un regard, d'apporter des idées, éventuellement de corriger des problèmes ou éventuellement d'ajouter eux-mêmes les fonctionnalités. Donc ça, c'est l'un des aspects qui fait qu'il y a cette dynamique qui se crée. Bon, et en parallèle, il y a un autre aspect qui est ce qu'on appelle tout simplement la mutualisation. C'est le fait, mais c'est pareil avec du logiciel privatif, hein. On essaye de faire payer un certain nombre de clients pour la même chose. Sauf que dans le logiciel libre, c'est explicite, c'est-à-dire que on va avoir, non, en tout cas pour certains modèles d'éditeurs, un même logiciel qui va être développé pour 3, 4, 5, 10 clients différents, avec chaque fois les petites variantes, puisque encore une fois, on est sur du logiciel d'entreprise, donc chaque entreprise, au final, a ses besoins spécifiques. Mais en étant malin, en étant des bons développeurs et en étant capable de faire une version, une base de code logiciel qui répond à la majorité des besoins, à un moment donné, on atteint une masse critique et on a un produit qui finalement va ensuite pouvoir être décliné beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement et avec un coût marginal, c'est-à-dire le coût de chaque nouvelle installation qui va diminuer de plus en plus. Donc on retrouve le modèle de l'éditeur propriétaire qui investit au départ et qui ensuite se contente de vendre, entre guillemets, c'est un peu plus compliqué que ça, mais se contente de vendre des licences et donc de toucher une sorte de taxe. Avec le logiciel libre, on a une évolution, une transition plus graduelle entre le moment où on développe vraiment des logiciels à façon pour chaque client et puis une évolution vers un mode, parfois, pas toujours, parfois on reste sur du one shot, un logiciel par client, mais il y a un moment où on peut avoir un logiciel qui évolue de façon à devenir une sorte de plateforme générique qui peut être ensuite déclinée beaucoup plus facilement.
Et les licences libres permettent donc finalement de réintroduire les versions spécifiques par un client pour un autre client. C'est une des bases de ces licences. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des licences libres utilisées notamment.
Non, mais c'est vrai qu'il faut l'avoir. Il faut avoir l'accord du client. Il faut une compréhension. Alors nous, notre expérience, comme ça fait 20 ans qu'on fait ça, on se rend compte que les clients, pour la plupart, à part parfois des gens qui sont très bornés, et en général, ça se finit plutôt mal. Mon expérience est que les clients qui sont, je dirais, les plus tatillons sur ces questions et qui rechignent le plus à jouer le jeu du logiciel libre, au final, le projet a beaucoup plus de difficultés. Mais quand on a pour la plus majorité des clients, il y a une compréhension du fait que ce qui compte, c'est que leur version à eux, les choses qui sont vraiment spécifiques à leur processus, par exemple, leur façon de travailler, c'est à eux. On ne le partage pas. Mais par contre, tout ce qui est de la techno, tout ce qui est du code générique qui peut servir à plein de gens, au contraire, ils sont contents de le partager parce que c'est aussi pour eux une façon d'avoir un produit qui va évoluer et qui va se pérenniser.
D'accord. Alors j'en profite juste pour signaler qu'on le 7 mai, nous aurons une émission consacrée aux licences libres. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau de détail, avec Mélanie Clément-Fontaine, qui est une des premières à avoir étudié juridiquement ce sujet-là, et Olivier Hugo, du cabinet Dune. Donc c'est le 7 mai. On va faire une pause musicale avant de revenir sur l'intérêt pour les entreprises, collectivités, de faire appel à des prestataires logiciels libres. Nous allons écouter All Time par Killy Maze, et on se retrouve juste après.
I have been called to write the song, to share a message, answer the question, what do I believe? December 21st, 2012 means, do I think humanity will succeed? Do I think we will get swallowed by the sea? Let's trace it to hell in a handbag is what we're facing. Greeting capitalism has us replacing want over need products oversee the poor and the weak lead, the rich and ignorant feed. But there's another message being told, not one of doom and gloom, but our collective power to behold. We must unify. Just about I be peaceful on behalf of
Instead, use your heart. It'll community. You know it's all fake. Babylon don't want unity. Put your mind in earthquake. Don't want us to co-create. I've been gathering the girls and owls. We run deep. White buffalo calf. Women leading love. Armies. Red road. Below feet. We are rainbow warriors. Replacing the warriors. Write a whole new story up. Hold peace in our heart. Be our own product of accelerator and press start. I heard this from a Mohawk, Hopi, Navajo, and Aztec. Indigenous prophecy. Many think we're heading for Atlantis. Mayan message of opportunity resonates. This is a sacred time and place. Keep your mind and intentions positive in these final days. You'll find the crazy part of the plan. What you dumb, scared, and in a daze.
We must unify. Oh, means a shift in consciousness that is depending on our internal and collective ascending into unity that is unending. We may lose power in the final hour. What message are you sending? If you don't dig transcendence, then try these 10 commandments. 1. Be grateful and fun. Love all like never before. 2. Forgive all of yourself. Forget, set, let's go. 3. Let be, let live. Honor, exchange, accept, give. 4. Transmute fear, just feel it, then let go. 5. Honor feminine within all and let it flow. 6. Like Toltec function, don't take it personal or make assumptions. 7. Respect Mother Earth and all of nature. 8. Don't hurry your worry, it's using your imagination for what you don't want. 9. Live from your heart and your truth and don't front. 10. Don't let the voices inside stop ya. You are God, gotcha.
We must unify. Tremendous opportunity to shift from the love of power to the power of love. I for one will be doing all I can to envision and create the rebirthing of a planet that works.
Eh bien, nous venons d'écouter l'artiste américaine Kelly Mays. Alors, je crois que j'ai fait une erreur sur le titre. Je crois que c'est 2012 le titre de la chanson. Voilà, c'est non pas All Time. En tout cas, c'est en licence Creative Commons CC BY, donc partage. Et vous retrouvez évidemment les références sur le site de l'April, april.org. Donc, vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur causecommune.org. FM. Alors nous allons poursuivre notre échange donc sur les entreprises du logiciel libre, donc toujours en compagnie de Laurent Vargon, de Véronique Turner, de Stéphane Fermigier, et on va revenir sur le sujet de l'intérêt finalement pour les entreprises, enfin pour les clientes, les structures clientes, que ce soit entreprises, collectivités, d'avoir recours au logiciel libre, et aussi d'avoir recours à des prestataires spécialisés. Alors est-ce que c'est qu'une question de coût, de licence? Est-ce que c'est une question de maturité des outils, de fonctionnalité, de relation entre le client et le prestataire? Voilà, pourquoi des entreprises aujourd'hui, des clients ont intérêt à aller vers le logiciel libre? Véronique.
Alors du coup, nous, c'est intéressant parce qu'on a créé il y a 10 ans un événement qui s'appelle l'Open CIO Summit et qui nous permet de réunir des décideurs. Donc c'est souvent des décideurs informatiques.
Alors CIO, c'est le responsable informatique.
Le responsable informatique, voilà. En anglais. Parce qu'on essayait d'être un événement international, donc on s'était mis des sigles anglais. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on adresse plutôt comme une population française. Et donc, on réunit chaque année à peu près une petite centaine de décideurs informatiques pour échanger et avoir des retours d'expérience sur leurs pratiques, leur usage de logiciels libres. C'est intéressant de voir finalement les cycles de maturité. Il y a 10 ans, on était plutôt face à une population qui avait une conviction plutôt philosophique, qui croyait en fait au logiciel libre, et dans le lot, peu d'acteurs du privé, beaucoup d'acteurs des administrations françaises, collectivités. Et puis, il y a une deuxième vague, je dirais 5-6 ans après, ça a été plutôt le coût. Ils sont aperçus en fait qu'ils arrivaient à challenger les solutions propriétaires qui commençaient à entrer dans une dynamique de redevances, d'audits de licences et de coûts importants. Et ils se sont dit, il faut qu'on challenge ces modèles. Et donc, on va s'intéresser aux logiciels libres. Et donc, ils sont plutôt intéressés pour une dynamique de coûts. Et puis, chemin faisant, ils sont aperçus que finalement, le coût était un élément intéressant, mais pas toujours vrai, parce que parfois, autour de la solution logiciel libre, il y a beaucoup de services à développer. Donc, ils sont aperçus qu'il y avait aussi d'autres leviers intéressants, qui étaient l'innovation. On peut dire aujourd'hui quand même que toutes les grandes innovations technologiques qui ont eu lieu ces dernières années sont quand même massivement nées du logiciel libre, que ce soit dans l'infrastructure avec le cloud, autour de la mobilité, tout ce qui est data, analytics, tout ça quand même, c'est, je dirais pas, dominé par le logiciel libre, mais quand même pas loin. Clairement, aujourd'hui, le monde du web est par contre clairement dominé par le secteur du logiciel libre. Donc, un facteur important qui était d'innovation. Et puis arrive maintenant, ces derniers temps, c'est depuis 1 ou 2 ans, on va plutôt être sur l'attractivité des talents. On rentre dans une ère de pénurie aujourd'hui des talents. Et,
depuis quelques années même, j'ai l'impression.
Ouais, depuis quelques années. Mais vraiment, ça commence à être tendu depuis un petit 5 ans. C'est un phénomène qu'on connaît en Europe depuis pas mal d'années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à d'abord parce que la transformation numérique a fait un appel d'air. Il y a eu besoin de beaucoup, beaucoup de développeurs. Et qu'aujourd'hui, les écoles, globalement, les universités, tous les cursus qui apportent une formation dans le secondaire, post-bac. Aujourd'hui, le nombre d'étudiants qui sort certifiés avec un diplôme est insuffisant par rapport à la demande du marché. Et donc, pour se différencier, ils sont aperçus que avoir une philosophie, une ambition, une culture d'entreprise proche de l'open source ou du logiciel libre était un facteur différenciant et ils arrivaient à attirer des talents. Donc, vous voyez, le chemin, en fait, il est quand même, il a évolué d'année en année et on recommence maintenant et je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle ère où l'éthique va être un sujet important. Ce qu'on prenait il y a 10 ans, nous, les pionniers, où la transparence était un élément important, l'intelligence collective, le partage, l'effet boîte noire, redevient un sujet d'actualité aujourd'hui. On le voit bien avec l'intelligence artificielle, l'émergence des fake news. On se rend compte qu'on a besoin d'avoir plus de transparence autour du numérique et le logiciel libre, évidemment, est un socle qui apporte naturellement cette transparence.
Laurent Vargon, ton point de vue d'ex-client et prestataire aujourd'hui sur justement cet intérêt pour.
Alors, il y a peut-être clients. Quand même, effectivement, il y a un effet de coût qui est quand même très significatif. Je me souviens quand je suis arrivé aux Arts Décoratifs en 2005, la première année a été une opération d'économie de 40% sur le budget de fonctionnement. Et ce qui était, en l'espace de quelques contrats, on avait pour un service au moins aussi bon, sinon meilleur, obtenu des résultats vraiment satisfaisants. Donc il y a un effet de coût qu'il ne faut pas négliger. Et ensuite, il y a le rapport qu'on peut avoir avec son fournisseur. Alors, chez Historix, on est une entreprise démocratique. Donc, chaque individu va être à la fois le patron et le salarié. Donc, en fait, quand on s'adresse à son client, en fait, c'est le patron qui s'adresse à son client. Donc, il a envie que le projet avance. Et derrière, il y a toute une équipe. Donc, il y a toutes les compétences que l'on peut souhaiter avoir, c'est-à-dire du spécialiste de l'application, en passant par celui qui connaît les bases de données, celui qui connaît l'infrastructure de stockage et celui qui connaît les réseaux. Donc on a une profondeur sur les compétences et on a une motivation de chacun. Donc ça donne une relation avec le client qui est, je pense, tout à fait privilégiée. Voilà, je crois que c'est...
D'accord. Alors, je te passe la parole, Stéphane. Je fais juste une petite remarque parce que sur le salon web, une de nos auditrices préférées, Marie-Odile, nous fait une remarque, ou plutôt une suggestion. Madame Véronique Turner pourrait-elle rencontrer le ministre de l'Éducation? Je pense qu'effectivement que Jean-Michel Blanquer, notamment dans le cadre du projet de loi pour une école de la confiance, prendrait bien soin d'entendre à la fois les entreprises du logiciel libre et puis évidemment les associations, dans le cadre notamment de la priorité au logiciel libre dans le monde de l'éducation. Stéphane, tu voulais réagir?
Oui, je voulais abonder dans le sens de Véronique sur les deux dernières étapes de l'évolution un peu du marché qu'elle a évoqué, le moment de l'innovation, l'accélérateur de l'innovation. En fait, il y a une théorie qui s'est développée il y a une quinzaine peut-être d'années qu'on appelle l'innovation ouverte. L'innovation ouverte, c'est l'idée que les entreprises les plus innovantes, y compris les grosses entreprises, c'est des entreprises qui sont capables d'innover avec des partenaires, avec des écosystèmes, de sous-traitants, de gens qui venaient simplement s'interfacer avec leur service, leurs produits, leurs logiciels, etc., avec des laboratoires de recherche. Alors tout ça pouvait se faire de manière très très contrôlée, avec des accords de confidentialité, etc., etc. C'est pas forcément la façon la plus efficace de faire de l'innovation ouverte. On pense, on est nombreux à penser, en tout cas dans notre milieu, que le logiciel libre où l'innovation se fait finalement de manière extrêmement transparente, où l'objet même de l'innovation, c'est-à-dire le code source du logiciel, est transparent, les rapports de bugs, les demandes des utilisateurs sont souvent transparentes, chacun peut se faire une opinion. Et tout ça fait que les idées circulent beaucoup plus vite et qu'on a un accélérateur formidable, des bonnes idées qui finalement vont en quelques mois arriver à intégrer un projet de développement et puis en quelques années vont arriver à avoir un impact réel sur les utilisateurs. Sur la deuxième partie, la partie des compétences, des salariés, trouver des bons développeurs, et ben c'est évident que le logiciel libre, ce côté très transparent, très ouvert, fait que les jeunes, ou les moins jeunes, mais tous les gens qui ont envie d'apprendre ou de continuer à apprendre, ils ont maintenant des millions, des milliards maintenant de lignes de code qui suffit de lire, qui suffit d'explorer pour arriver à se mettre dans la peau, dans la tête des plus grands développeurs de la planète. Les Linus Torvalds, les Richard Stallman, les Guido von Rossum, et donc qui sont des créateurs des logiciels libres majeurs d'aujourd'hui.
Alors GNU, le noyau Linux, Python,
le langage Python. Donc, mais ça peut être aussi... Ça, c'est vraiment, par exemple...
Du Perl aussi.
Aller voir les logiciels des experts, mais on peut aussi aller voir des logiciels qui ont été écrits par des gens qui ont une approche plus pédagogique, donc qui permettent aussi à des personnes qui sont encore en apprentissage de se familiariser, de monter en compétences. Et enfin, il y a l'aspect motivation, c'est-à-dire que le fait d'avoir vraiment compris comment fonctionnait le milieu du logiciel libre, les enjeux, y compris de société qu'il peut y avoir derrière, eh bien, ça fait qu'on va avoir des gens qui vont développer en ayant plus peut-être la gnaque, comme on pourrait dire, plus envie que les choses fonctionnent, plutôt que de développer simplement parce qu'on leur a demandé de faire ci ou de faire ça.
Alors, avant de repasser la parole à Véronique, en parlant de code source accessible, ça nous fait évidemment penser au projet de Roberto Di Cosmo de l'INRIA Compagnie Software Archive. Alors, je ne me souviens plus quelle date d'émission on a consacrée, mais vous allez sur le site de l'April et on avait consacré une émission à ce sujet-là. Véronique Turner.
Oui, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est globalement toutes les grandes entreprises. Je pense que c'est plus vrai d'ailleurs dans les grands comptes, que ce soit secteur public ou privé. Aujourd'hui, le logiciel libre est présent.
Qu'est-ce qu'appelle un grand compte ? Précise peut-être. C'est quoi? C'est le nombre de personnes.
Oui, c'est le nombre de personnes. Hein, on classifie les TPE, les toutes petites entreprises qui vont être, je pense, autour d'une dizaine de salariés. Ensuite, tu as la PME qui monte jusqu'à à peu près 200, 250 salariés. Tu as l'ETI qui est jusqu'à, je ne sais pas, 2-3 000, je pense, salariés. Hein. Après, tu peux avoir des critères de chiffre d'affaires.
D'accord.
Mais le critère, je crois, européen est sur un nombre de mix de salariés et de chiffre d'affaires. Et puis ensuite, tu as les grands comptes. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que quasiment toutes les grandes entreprises, hein, donc les grands comptes, que ce soit public ou privé, ont du logiciel libre et de manière assez structurante dans leur système d'information. Je pense que c'est vrai également dans les ETI. C'est peut-être un petit peu moins vrai dans les TPE et les PME, alors que je pense que pour elles, ça serait très bénéfique d'en avoir. Mais souvent, elles sont plus enclines à prendre des solutions sur étagère et beaucoup de solutions sur étagère restent encore du domaine propriétaire. Ou alors, elles utilisent masquées dans des solutions SaaS de l'open source, mais alors, le logiciel libre. Ouais, du service
logiciel en tant que service
tout à fait à la demande et bénéficie pas vraiment en fait de l'apport du logiciel libre au travers de ce type de solution.
Alors justement, tiens, j'ai une question sur l'apport réel du logiciel libre. Est-ce qu'un client est vraiment libre à partir du moment où il fait appel à une solution libre à des prestataires libres? Ou est-ce qu'on peut rendre finalement un client captif éventuellement même avec du logiciel libre? Et donc, dernière question, quelles sont les garanties ou en tout cas quelles sont les bonnes pratiques pour qu'un client soit réellement libre? Alors c'est souvent la notion de réversibilité ou autre, de pouvoir finalement changer de prestataire. Laurent, puis après les...
Oui, alors effectivement,
Véronique et Stéphane.
Si on livre une application et qu'on ne documente pas et qu'on que l'expertise reste chez le fournisseur, forcément, l'apport du logiciel libre est excessivement faible. Donc, charge au fournisseur de produire suffisamment de documentation pour que cette transparence puisse bénéficier au client. Ensuite, même, il nous arrive aussi de reprendre des applications qui ont été développées par d'autres et donc d'auditer le code. Et ça, on peut quand même le faire. Alors, ça demande une certaine énergie, mais l'application qui est faite, on peut quand même la maintenir dans le temps avec donc une pour lui donner un nouveau souffle de vie finalement.
D'accord. Véronique, Stéphane, là-dessus ?
Oui, je trouve que c'est intéressant comme question, parce que du coup, c'est vrai que le fait que les fondamentaux du logiciel libre, ce soit la transparence, qu'on puisse partager en fait le code, qu'on puisse le faire évoluer, donne le sentiment finalement en fait qu'on ne pourrait ne pas être captif par rapport à ces solutions-là. En fait, la réalité, c'est que si on peut tout à fait captif, alors Laurent a donné un bon exemple, si en fait ce qu'on utilise n'est pas documenté, bon, bah, c'est sûr que derrière, on va être captif du fournisseur qui nous a transmis la solution. Mais il y a aussi d'autres éléments à tenir en compte. Il y a cette notion de captivité, puis il y a aussi cette notion de qualité. Ce n'est pas parce que, en fait, finalement, on utilise un logiciel libre, on se dit, tiens, il y a de l'intelligence collective, donc finalement, ce sont des produits de plus grande qualité que finalement, le produit est de grande qualité. Donc, il y a tout un tas de critères à regarder. Évidemment, il y a la documentation, il y a l'amplitude de la communauté qui est derrière. Il peut y avoir un éditeur, mais il peut y avoir une communauté. La vivacité aussi de la communauté, le fait que régulièrement, elle mette à jour ses solutions. Donc, il y a quand même un certain nombre de critères à prendre en compte pour s'assurer que, en mettant du logiciel libre au sein de son entreprise, à la fois, on aura un code de qualité et on ne se rendra pas captif d'une solution. Et finalement, on reviendra dans le système propriétaire où on a l'effet boîte noire.
On peut dire que le logiciel libre, le simple fait qu'il y a des licences qui gouvernent ces logiciels, il rétablit un peu l'équilibre entre les fournisseurs et les clients. Dans le monde du propriétaire, effectivement, une fois qu'on a déployé une solution très complexe et très difficile à changer dans une entreprise où il y a, je ne sais pas, mettons 100 000 utilisateurs de cette solution, qu'on a formé tout le monde, etc., on peut imaginer que la somme, les montants nécessaires pour passer à une autre solution qui serait fournie par un concurrent, elle serait certainement de l'ordre de millions, dizaines de millions d'euros, sinon plus. Donc il y a vraiment cette notion de captivité et qui fait que les logiciels dans les entreprises, souvent, ils changent. En fait, ils ne changent pas parce qu'il y a un nouveau fournisseur qui est apparu et puis qui finalement est un peu moins cher, un peu meilleur, un peu plus sympa. Ça existe, mais c'est rare. Et en fait, les grands changements, ils se font quand il y a une vraie rupture technologique, quand il y a des nouveaux langages, des nouveaux paradigmes. Quand on a vu arriver, par exemple, les applications web, ben en quelques années, peut-être en 10 ans, toutes les applications, peut-être pas toutes d'ailleurs, mais une grosse partie des applications anciennes dans les entreprises a été remplacée par des applications web. Alors, le logiciel libre, quand même, il rétablit le curseur. Il le met pas complètement du côté des clients, parce que dans ce cas-là, il y aurait un problème, c'est que le client, s'il peut vraiment faire la loi et aller toujours, par exemple, vers le moins 10 ans, il y aura un problème économique et on ne pourra pas avoir une activité réellement créatrice de logiciels de qualité avec toutes les garanties que peuvent apporter les éditeurs de logiciels, qu'ils soient libres ou pas. Donc, pour nous, et ça c'est quelque chose qu'on voit quand on fait vraiment le panorama des principaux acteurs, enfin de tous les acteurs en France du logiciel libre, les éditeurs spécialisés, les éditeurs qui sont aussi un petit peu intégrateurs, chacun, il a son expertise, il a souvent une expertise métier, donc il connaît parfaitement le métier d'un ou plusieurs secteurs de clientèle. Et ça fait partie aussi de ce qu'un éditeur, ou une société en général, peut apporter, un fournisseur peut apporter à son client. Il y a le côté purement technique qui fait qu'il y a un souci de la qualité. On est là pour le long terme, on n'est pas là pour vendre une solution qui va marcher pendant 3 jours et puis dès qu'on aura encaissé la facture, ça ne marchera plus. Mais ce n'est pas grave parce qu'on ira chercher un autre pigeon à plumer. L'éditeur, il est là sur le long terme, il veut que son client soit content et on va dire que c'est une valeur qui est partagée plus généralement dans le domaine du logiciel libre, parce que tout simplement, encore une fois, la transparence fait que si on laisse vraiment des énormités dans le code, eh ben ça va se voir. Et si ça se voit, ça ne sera pas bon pour la réputation de l'entreprise qui est derrière ce développement. Et donc, tout ça fait qu'il y a un certain nombre de cercles vertueux qui font que la relation s'équilibre entre fournisseurs et prestataires par rapport à un modèle où on est plus dans le conflit et où on voit des fournisseurs souvent, par exemple, quand ils sont en position dominante de quasi-monopole, ils peuvent, d'une année sur l'autre, augmenter les licences de 30%. Les clients râlent, les clients, bon, mais ils ne sont pas contents. Mais voilà, qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité ? Attendre le prochain cycle technologique en espérant qu'il y ait des fournisseurs plus sympas qui arrivent sur le marché.
Véronique, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, je disais qu'un des intérêts aussi pour ces entreprises d'utiliser du logiciel libre, c'est à un moment donné, lorsqu'ils ont un parc applicatif où ils ont, je ne sais pas moi, 200, 300 briques de logiciel libre, ils peuvent confier en fait à un ensemble d'acteurs qui sont fédérés en guichet unique tout le support en fait de leurs briques. Ce qui n'était pas possible dans le monde propriétaire, c'est-à-dire que c'était impossible d'avoir à un moment donné un guichet unique, vous étiez obligé de travailler, si vous aviez 200 briques propriétaires, bah, vous aviez 200 contrats, 200 relations fournisseurs. Le logiciel libre permet en fait d'avoir à un moment donné un guichet unique où vous pouvez confier en fait le support de ces 300 catalogues, ce qui est quand même un apport énorme pour une entreprise. Et ensuite, c'est plus vous avez en fait intégré des logiciels libres qui ont des communautés importantes, plus bah, vous avez le choix en fait des acteurs qui vont composer en fait ce guichet unique. C'est-à-dire que si à un moment donné vous avez contractualisé avec un groupement d'acteurs et puis vous estimez finalement qu'ils vous rendent pas le service, eh bien si en fait ces composants sont très répandus, bah, vous pouvez le confier à un autre groupement. Et donc ces groupements peuvent être composés d'intégrateurs, d'éditeurs. En général, c'est le cas. L'intégrateur assure un support de niveau 1, niveau 2, et puis il s'appuie sur toute une communauté d'éditeurs sur le niveau 3. Donc ça, c'est, je trouve, un partenariat win-win à la fois pour le client, qui se retrouve à pouvoir gérer auprès d'un groupement, d'un interlocuteur, sa problématique de support, qui est quand même un sujet hein, sur les budgets informatiques, c'est quand même des gros montants, la notion en fait de support, de maintenance en fait des solutions qui sont déployées. Et puis c'est win-win aussi pour la communauté des intégrateurs éditeurs, parce qu'ils peuvent s'associer et proposer une offre de service de qualité aux clients.
Alors sur cette démarche gagnant-gagnant, Laurent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Je précise qu'on va bientôt terminer cette discussion.
D'accord. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir s'engager sur la durée avec le client. Il faut que le client ait confiance. Si on ne sait pas répondre, eh ben, on répond qu'on ne sait pas. Et si on sait répondre, eh ben, on répond et on répond rapidement. Donc, on ne va pas s'engager sur un panel pas raisonnable. On va s'engager sur le panel que l'on connaît. Et a priori, ça se passe plutôt très bien. Historix est spécialiste GNU Linux depuis 1997 et on a encore des clients qui étaient là en 97. Donc, on est assez satisfait.
C'est très bien. Véronique.
Oui, tu disais tout à l'heure, en fait, finalement, qu'est-ce qui ferait la différence entre un Capgemini, un Atos ?
Oui, j'avais cette question-là. Ce sera la dernière réponse.
D'accord.
En tout
cas, c'est une bonne question. En fait, la différence, c'est que les acteurs, et notamment les entreprises de services qui sont spécialisées en open source, évidemment, ils connaissent très, très bien l'écosystème du logiciel libre. Ils connaissent bien les acteurs. Ils ont en leur sein des acteurs qui sont spécialisés sur ces solutions. Et c'est ça qui fait en fait la grande différence. Ce sont des acteurs, je le disais en introduction, qu'est-ce qui nous différencie ? C'est aussi souvent des équipes qui contribuent aux solutions. Et c'est ça qui va faire la différence avec un acteur généraliste. C'est cette notion d'expertise, de passion aussi. Ils sont souvent, hein, les salariés de nos entreprises sont des gens qui sont passionnés en fait. Hein. C'est pas un métier, je dirais, d'être développeur ou informaticien, c'est une passion. Et c'est ça, cette passion, elle est restituée en termes de qualité et d'excellence auprès de nos clients.
Stéphane ?
Alors, à ce sujet, peut-être un petit mot sur le CNLL, qui est l'Union des entreprises du logiciel libre en France. On représente peut-être entre 300 et 400 entreprises en France. Et on s'est posé la question, est-ce que ces entreprises, elles ont une spécificité ou est-ce que simplement, c'est des gens qui font chacun leur truc un peu dans son coin, chacun à sa façon. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande variété entre toutes ces entreprises, mais on pense y reconnaître un certain nombre de valeurs communes. Et par exemple, on a fait signer, il y a 7-8 ans déjà, ce qu'on a appelé la charte libre-emploi, qui est juste une charte très simple en 5 points, mais qui garantit que les entreprises signataires de cette charte font en sorte que leurs employés, les gens qui travaillent dans ces entreprises, sont vraiment libres d'utiliser des logiciels libres s'ils en ont besoin, enfin si ça fait du sens dans le cadre de leur travail. Ils sont libres d'aller se former lorsque ça c'est aussi nécessaire, en allant à des conférences, en participant à des communautés. Et ils sont libres aussi, toujours dans un cadre contrôlé, mais dans un cadre qui est quand même où l'entreprise est proactive, d'aller travailler, d'aller contribuer dans les communautés. Donc il y a des valeurs qui sont communes entre ces entreprises. On représente quand même 50 000 personnes en France, donc 50 000 employés en France, c'est quand même pas négligeable. Et on espère aussi que c'est une communauté qui sera reconnue par notre secrétaire d'État, Cédrico.
Cédrico. Avec une croissance très forte, je renvoie sur les études notamment publiées par le CNLL. Donc dernière intervention en 30 secondes, Laurent, sur Libre Entreprise.
Alors Libre Entreprise, c'est une quinzaine d'entreprises, ça représente une centaine de personnes, qui adoptent les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire une démocratie d'entreprise où chaque individu est acteur dans la décision de l'entreprise à part égale. Voilà. Et donc c'est une sorte d'essaimage, un peu comme les chatons ou comme la fédération French Data Network, qui, plutôt que de grossir en propre, fait en sorte de diffuser le modèle.
Mais alors, merci. Chaton, c'était la semaine dernière, si je me souviens bien. Donc l'émission, évidemment, est disponible sur le site. Alors je vous remercie donc pour cette première émission, évidemment, sur les entreprises du logiciel libre. Donc Laurent Vargon d'Easter Eggs et Libre Entreprise. Véronique Turner d'Alterway, du Syntec Numérique et d'Open CIO Summit. Stéphane Fermigier d'Abilian, du CNLL et du groupe thématique logiciel libre du pôle systématique. Toutes les références sont sur le site de l'April. Nous allons faire une petite pause musicale. Le morceau que nous allons écouter, c'est Once Tomorrow et c'est Josh Woodward.
Cause commune.
Don't let me take too long here. I've got a lot of things to do. These days are passing by me. I'm staring blindly at the view. I woke up one day older, just like 10,000 days before. And all at once I'm hearing a quiet knocking on my door. Lost chances, sideways glances, I will let them be without me. Creation, celebration, I will let them pass me by, and nothing ventured, nothing gained. When all I see is loss and pain, so screw it. Once I was star outshining, now I'm buzzing like a neon sign that's missing half its letters, and it's getting dimmer all the time. Oh, bells ringing, choirs singing, I will let them be without me. Moonshine and cherry wine, yeah, I will let them pass me by.
Alors, nous venons d'écouter Once Tomorrow par Josh Woodward. On a coupé un petit peu avant la fin pour laisser le temps de parole à Vincent Cadam. Ce morceau est en licence Creative Commons by 4.0, donc partage. Et évidemment, les références sont sur le site de l'April. Alors, nous allons passer maintenant au sujet suivant avec la chronique de Vincent Cadam, informaticien libriste. C'est comme ça que je te présente, tu me corrigeras éventuellement.
Très bien.
chronique intitulée « Jouons collectif ». Alors Vincent est informaticien et bénévole à l'April. Et cette chronique, en fait, c'est choses vues, entendues et vécues autour de l'usage du logiciel libre au sein de collectifs, donc associations, mouvements et équipes en tout genre. En gros, c'est le témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Alors, bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors, le thème du jour, tu m'as dit, c'est « Je me demandais ce que vous faisiez là ».
Oui, voilà. Alors, la petite phrase de cette chronique demande d'être contextualisée. C'est-à-dire qu'il y a le 13 et 14 avril, j'étais au forum, aux journées du logiciel libre à Lyon, qui est un rendez-vous important qui est de la communauté francophone, qui a fêté d'ailleurs ses 20 ans l'an dernier, qui est un événement qui propose des conférences, des ateliers et qui possède également un village associatif où se trouvent des stands tenus par de nombreuses associations. Et bien sûr, d'ailleurs, l'April y était présent.
Alors, l'April y était présente et c'est l'occasion de remercier les bénévoles qui tiennent ce stand. Alors, je ne sais plus quelle personne était présente là-bas, mais en tout cas, voilà, on tient à peu près une quinzaine ou une vingtaine de stands par an. Et c'est vrai que les Journées du logiciel libre, donc, qui ont, comme tu l'as dit, fêté leurs 20 ans, est un des événements vraiment importants de l'année. En plus, c'est vraiment en centre-ville, à la maison de la Maison pour tous des Reims-Cy. Donc, je vous encourage l'année prochaine à y aller. C'est autour d'avril 2020. Et donc, dans cet endroit, donc tu n'y étais pas pour l'April, donc tu étais pour quoi en fait?
Oui, alors...
Je vais quand même balancer un petit peu, tu es quand même sur l'une des photos du stand de l'April, sur photo.april.org, donc, mais tu étais pour quoi en fait alors?
Alors, j'y étais, dans un autre cadre, même si évidemment je suis allé dire bonjour aux camarades. J'y étais pour présenter un logiciel libre qui s'appelle Scrutary, qui est un moteur de recherche de ressources documentaires que je développe dans le cadre du projet Corédem, qui est un projet porté par une structure appelée Ritimo.
Ouh là 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 là. Scrutary, Corédem, voilà. Ritimo, explique-nous tout ça,
oui,
s'il te plaît.
Alors, je suis toujours obligé de contextualiser. Alors, Ritimo, je vais le présenter d'abord, cette structure, c'est un réseau de centres de documentation qui a plus de 30 ans et qui était axé sur la solidarité internationale. TIMO, c'était pour tiers-monde, donc ça date un petit peu comme concept, mais la solidarité internationale, c'est toujours très important. Et au début, c'était centre de documentation papier, qui est toujours un de ses rôles, mais évidemment, avec le numérique, ça a changé leur manière de travailler. Et depuis quelques années, ils se posent beaucoup de questions autour du logiciel libre. Et Ritimo fait à la fois des formations à destination d'associations sur les logiciels libres et également anime un projet qui est Corédem, qui est une communauté de ressources documentaires sur les questions notamment de la transition. Et c'est à ce titre que j'y étais, parce que je travaille sur le moteur de recherche de ce projet. Et donc,
On va repréciser, peut-être même donner les adresses des sites web. Donc, Ritimo, c'est l'association, donc c'est ritimo.org. Cette plateforme de ressources pédagogiques, comment tu as appelé ça?
C'est ressources documentaires.
Ressources documentaires, donc c'est Corédem, donc c'est corédem.info, voilà. C'est Coredem.info. Et le logiciel qui est derrière tout ça, le moteur de recherche libre que tu développes, donc c'est scrutary.net.
Voilà. Tout à fait.
Voilà.
Voilà, donc j'ai fait la conférence, bon ça je ne vais pas m'y attarder, mais ensuite je suis allé tenir le stand de Ritimo au sein du village associatif des journées du logiciel libre.
Et c'est là que donc des gens de Ritimo t'ont dit, je me demandais ce que vous faisiez là.
Alors, c'est pas des gens de Ritimo, c'est le public, puisque je tenais le stand de Ritimo, okay. Et sans le vouloir, nous avions préparé sur le stand, nous avions mis les publications de Ritimo, et sans le vouloir, aucun ne faisait référence directement au logiciel libre. Et donc, effectivement, c'était une phrase que j'ai entendue de manière positive, sympathique, mais de personnes qui se demandaient ce que une association comme Ritimo faisait à cet endroit. Donc, c'est une manière d'expliquer et de faire des liens entre des thèmes, notamment de solidarité internationale, et des thèmes du logiciel libre.
Donc, au final, en fait, cette phrase, elle est positive.
Oui, elle est positive parce qu'en fait, on titille la curiosité des gens en leur montrant les croisements qu'il y a entre le thème principal qui était là, le logiciel libre, et d'autres enjeux et d'autres réflexions qui, sur d'autres thèmes. Et donc, on aide à faire des croisements. Je prends un exemple Ritimo a beaucoup de publications sur les questions de l'engagement, notamment d'engagement des jeunes en solidarité internationale, sur la question aussi des dons du matériel informatique qui souvent est plutôt pervers parce qu'en fait c'est un, on donne des choses obsolètes et pas très utiles. Donc il y a toute une réflexion là-dessus et je trouve que ça peut entrer en résonance avec des questions de l'engagement que peuvent avoir des gens dans le cadre du logiciel libre. Notamment.
D'accord. En précisant que les journées, et c'est sur le salon web qu'on me le précise, hein, c'est Étienne en régie qui me dit que les journées du logiciel libre de Lyon, le thème principal, c'était l'écologie.
Oui.
Et précisons aussi que, alors, tu me l'avais dit dans les notes, quand tu parles de la revue de Ritimo, donc c'est Passerelle avec un S, il y a une des revues, enfin un des numéros qui est consacré, enfin intitré « Pour une information et un Internet libre, journaliste indépendant, médias associatifs et activistes s'engagent ». La référence est sur le site de l'April, la revue est téléchargeable librement.
Oui, la précision d'Étienne est importante, je veux dire, les journées elles-mêmes étaient déjà en croisement avec d'autres thèmes. Hein. Ce n'était pas seulement une réunion d'informaticiens, il y avait cette question de l'écologie et de la transition.
Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est important que... Enfin, l'April est présente à pas mal à des stands professionnels. Donc, on n'a pas parlé tout à l'heure de POS, donc Paris Open Source Summit, qui est un salon professionnel de logiciels libres à Paris, mais on est aussi présent, et depuis très longtemps, à des salons qui ne sont pas du tout professionnels, pas du tout informatiques. Hein. Historiquement, il y a la fête de l'UMA, par exemple. Réseau Alternativa, pareil, autour de l'écologie et de la planète. Et, par exemple, la fête des possibles, qui est organisée par différents réseaux, dont je pense Ritimo en fait partie, Alternativa aussi, qui a lieu de mémoire donc en septembre chaque année. Je crois que ça va être la troisième ou quatrième édition cette année. Donc il est important d'être présent sur ces événements-là, où effectivement on fait des croisements et où on explique l'apport du logiciel libre pour une société bah, finalement plus libre, plus égalitaire, plus inclusive. Mais je te laisse poursuivre.
Oui, donc c'est, je crois que ce qui est important dans tes stands, c'est de ne pas prêcher à des convaincus. Je crois que quand on tient un stand dans l'endroit habituel, bon, ça permet de croiser des têtes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, mais c'est pas comme ça qu'on va aller au contact de nouvelles personnes, on va sensibiliser de nouvelles personnes. Donc je crois que c'est important d'être dans des lieux auxquels les gens ne s'attendent pas ce qu'on soit, à la fois d'ailleurs le public, mais à la fois peut-être les autres membres de l'April ou les autres adhérents qui vont peut-être sur le moment se dire pourquoi Alternativa, pourquoi la fête de Lima, et aussi d'expliquer que c'est important quand on porte une parole qui va au-delà de la technique, qui est un vrai objet politique, d'être dans des lieux autres. Et je milite.
Mais on parle de la fête de Lima, je me souviens très bien que les premières années, c'était une question très récurrente. Mais alors, pourquoi vous êtes là? Alors, à la fois les gens qui visitent la fête de Lima, que je rappelle qui est un festival avant tout quand même, hein, mais aussi les gens à l'extérieur nous disaient, mais pourquoi vous allez à la fête de Lima? Et on devait leur expliquer. Aujourd'hui, je crois que la question ne se pose plus. Les gens ont compris qu'il faut aller à ce type d'événement. Et tu voulais terminer peut-être par une note un peu personnelle, parce que je crois que tu as rencontré des personnes qui écoutent l'émission dont ta chronique.
Voilà, tout à fait. J'ai croisé des personnes alors qu'ils m'ont dit qu'ils écoutaient ma chronique. Alors, ils ont été très polis parce qu'ils n'ont pas dit si la chronique leur plaisait ou non. Mais voilà, donc effectivement, nous sommes écoutés. Enfin,
au moins toi.
Oui, en tout cas, cette émission. Donc, j'en profite pour remercier mes auditeurs et mes auditrices. Je remercie également la personne qui va faire la transcription de la chronique.
Marie-Odile.
Merci Marie-Odile. Et puis un petit baiser à Didi qui se reconnaîtra aussi parmi les auditrices. Voilà.
Bah écoute, merci Vincent. Donc c'était la chronique de Vincent Calame intitulée « Jouons collectif ». Voilà, sur son retour d'expérience. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer les personnes qui nous écoutent, hein, que ce soit après une conférence ou après la radio. Et évidemment, on retrouve Vincent le mois prochain. Alors, nous allons faire un petit jingle. Il y a beaucoup de talent en régie aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord, il y a beaucoup de talent en régie. Alors, dans les annonces, les personnes qui écoutent l'émission, vous la connaissez, a priori, si vous l'écoutez, vous l'appréciez, mais vous vous demandez comment la faire découvrir à un plus large public, eh bien, on a pensé à vous. On a préparé une petite bande-annonce pour faire découvrir notre émission. Donc, c'est une bande-annonce qui dure 1 minute 30, donc on va vous la diffuser, je reviens juste après.
Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Libre à vous se veut avant tout une émission d'explication et d'échange sur les dossiers politiques et juridiques que l'April traite et sur les actions qu'elle mène, pour les libertés informatiques en général et pour le logiciel libre en particulier.
Libre à vous, c'est aussi un point sur les actualités du libre, des invités au profil varié, de la musique sous licence libre, des actions de sensibilisation. et aussi des propositions de moyens d'action pour contribuer et agir en faveur des libertés informatiques.
Cette émission s'adresse à tout le monde, à vous. Que vous ne connaissiez pas encore le logiciel libre, les libertés informatiques, ou que vous soyez une ou un expert, cette émission est faite pour vous.
Donnez à chacun et chacune de manière simple et accessible les clés pour comprendre les enjeux et aussi proposer des moyens d'action en faveur des libertés informatiques. Tels sont les objectifs de notre émission.
Retrouvez-nous en direct chaque mardi de 15h30 à 17h sur la radio Cause Commune, sur les ondes de la radio 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm.
Les podcasts sont disponibles, ainsi vous pourrez écouter l'émission quand bon vous semble, 24h sur 24, 7 jours sur 7, et les partager avec qui vous voulez.
Vous retrouverez toutes les informations utiles sur le site de la radio causecommune.fm et sur le site de l'April, april.org.
On se donne rendez-vous chaque mardi à 15h30.
Bref, c'est libre à vous. Et donc voilà, cette petite bande-annonce d'une minute trente, je vais citer les voix qui interviennent, peut-être que vous en avez reconnu certaines, donc évidemment Vincent Calam qui vient d'intervenir, Étienne Gonu qui est aujourd'hui en régie, Isabelle Lavani, ma collègue, et Noémie Berger qui fait la chronique juridique, et évidemment aussi ma participation. Donc n'hésitez pas à diffuser cette bande-annonce qui est disponible sur le site de l'April, april.org, également sur le site de Cause Commune, donc causecommune.fm. Notre émission se termine, vous entendez le générique qui vient de démarrer en mode tapis, donc je remercie les personnes qui ont participé à l'émission aujourd'hui, alors Xavier Berne par chronique interposée enregistrée, Stéphane Fermigier, Véronique Turner qui est toujours avec nous, Laurent Vargon, Vincent Calam et Étienne Gonu en régie. Alors vous retrouvez sur le site de l'April, donc april.org, toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, donc causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours, comme l'a dit tout à l'heure Vincent, c'est intéressant d'avoir des retours des personnes qui nous écoutent pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Alors il n'y aura pas d'émission en direct mardi prochain, mardi 30 avril. Vous aurez droit à une émission constituée de sujets anciens, donc déjà diffusés. Donc il y aura la chronique « Copier n'est pas volé » de Jean-Christophe Becquet, la chronique « Partager est bon » de Véronique Bonnet, et le sujet principal portera sur les distributions GNU Linux. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 7 mai pour une émission consacrée notamment aux licences logiciels libres. Et d'ici là, portez-vous bien.